Voilà, bonjour à tous. Nous arrivons donc au troisième jour des enseignements que nous avons débutés donc depuis vendredi, à savoir présenter Jésus. Et le premier jour, on avait expliqué ou répondu à la question pourquoi devons-nous présenter Jésus? Et le monde tel qu'il est, tel que nous le vivons aujourd'hui, avec toutes ces catastrophes, avec tous ces maux que nous subissons, eh bien, produit tout simplement la souffrance de l'homme. Et toute cette souffrance n'est rien d'autre que la conséquence du péché depuis le temps d'Adam et Ève. C'est ce qui produit toutes les catastrophes et les difficultés que nous vivons aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous devons présenter Jésus, parce que le monde souffre. Et le monde a besoin de savoir qu'il y a une solution à la souffrance, qu'il y a une solution pour régler le problème du péché. Et c'est Jésus-Christ lui-même, par sa mort et par sa résurrection, et qui offre désormais son salut afin de nous garantir la vie éternelle, pour que ce temps de souffrance, ce temps de péché sur la terre, eh bien, ne soit plus un obstacle pour notre vie au quotidien. Le deuxième jour, on avait donné les moyens, ou bien comment présenter Jésus. Et on avait donné plusieurs points que je vais citer rapidement. Comment présenter Jésus? Présenter Jésus par la parole, tout simplement par la Bible, puisque c'est de cette manière-là que le Seigneur a trouvé bon de se révéler. Il nous a transmis les Écritures afin que par les Écritures, le monde puisse connaître le Seigneur Jésus. On avait aussi expliqué que présenter Jésus pouvait se faire aussi par la louange. La louange, c'est le fait d'exprimer ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur fera. Et lorsque nous sommes dans la louange, eh bien, nous sommes tout simplement en train de présenter le Seigneur tel qu'il est véritablement, dans sa grandeur, dans sa toute-puissance. Et donc la louange rend Dieu vivant. C'est la démonstration et la preuve que notre Dieu est vivant. Quelle que soit la situation dans laquelle on peut se trouver, les difficultés dans lesquelles nous pouvons nous trouver, lorsque nous sommes dans cet état d'esprit de louange, eh bien, finalement, nous montrons par là que le monde, en quelque sorte, n'a plus d'influence sur notre vie parce que notre Dieu est vivant. On avait cité aussi la question de l'unité, la question de l'amour entre frères, la question de la communion fraternelle. Et on avait évoqué notamment le psaume 133 qui nous dit qu'il est bon pour des frères de demeurer unis ensemble. Et cette conséquence d'être unis ensemble, eh bien, c'est tout simplement la bénédiction de Dieu qui est déversée. Donc le fait de vivre le véritable amour entre nous, eh bien, c'est ce qui démontre aussi, qui manifeste tout simplement l'amour de Dieu et qui révèle Jésus au monde. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous vous aimez les uns les autres, c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc le fait de vivre la véritable famille du Seigneur attire la gloire de Dieu qui par la suite manifeste et démontre que Jésus-Christ est vivant. On avait donné aussi le point de la prière. L'apôtre Paul dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné d'annoncer l'évangile comme je dois le faire. Donc ça nous montre tout simplement que le fait d'annoncer l'évangile, de présenter Jésus, eh bien, implique aussi un combat spirituel qui nécessite la prière pour que les choses se fassent selon que le Seigneur le veut. Donc c'est un paramètre que nous ne devons pas éviter. Les personnes pour lesquelles nous voulons que Jésus-Christ se révèle, ce sont des personnes que nous devons aussi porter dans la prière afin que les choses se fassent selon le plan de Dieu. On avait évoqué aussi le travail de l'âme. La Bible nous dit que l'âme de Jésus-Christ a travaillé pour que nous soyons sauvés. Le travail de l'âme, c'est la souffrance que nous pouvons porter lorsque nous avons le désir et la soif de voir les âmes être sauvées. Il y a comme un prix à payer. Le Seigneur peut, par exemple, t'envoyer dans un autre pays pour aller annoncer l'évangile. Il t'envoie alors qu'il sait que l'avion, ce n'est pas, comment dire, ton pain. L'avion, ce n'est pas ça que tu aimes. Il sait que tu crains l'avion, mais tu fais l'effort de faire cette démarche-là et ça crée une forme de souffrance. Ton âme travaille parce que le souci de faire l'œuvre de Dieu est là, malgré les contraintes, eh bien, qui peuvent tout simplement comme affaiblir notre chair, mais que nous acceptons parce que nous voulons voir le projet de Dieu s'accomplir. Et on avait cité en dernier point, en prenant l'exemple de l'eunuque éthiopien qui lisait la parole de Dieu et sans la comprendre finalement. Et le Seigneur va envoyer l'un de ses disciples à sa rencontre pour lui donner l'explication de ce qu'il lisait dans Ésaïe 53. Et c'est à partir de là que cet homme a été sauvé. Et on avait dit par là, il est donc important de distribuer la Bible, de répandre la parole de Dieu. Et viendra un temps où le Seigneur nous enverra aussi vers des personnes qui ont peut-être entendu, qui ont peut-être lu, mais qui n'ont pas compris. Et donc nous devons être disposés à l'écoute du Seigneur pour être utilisés de façon à ce que nous puissions nous présenter et annoncer et expliquer aux gens ce qu'ils ont lu mais qu'ils n'ont pas compris. Et donc aujourd'hui, nous arrivons donc au dernier jour et nous allons rester dans la même logique, c'est-à-dire du deuxième jour, c'est-à-dire comment présenter Jésus. Et peut-être le point qui est le plus important, mais qui malheureusement à notre époque se pratique le moins, c'est-à-dire être nous-mêmes Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons voir toutes sortes de mouvements chrétiens. Il suffit d'aller sur Internet pour voir qu'il y a des dénominations et des dénominations. Chacun crée son monde chrétien, chacun crée son église, chacun crée quelquefois même sa doctrine et veut présenter Jésus-Christ à sa manière. Mais il n'y a qu'un seul modèle de Jésus. Lorsque le Seigneur parle à Moïse et lui demande de construire le tabernacle dans lequel le Seigneur se reposera, en tout cas à travers l'Arche de l'Alliance, il dit à Moïse, « Tu feras selon le modèle que je t'ai montré. » Donc c'est une manière de dire, « Ne le fais pas selon ton imagination. Fais les choses telles que moi je te les montre. » Et c'est ce que le Seigneur veut aussi. En ce qui nous concerne, l'identité de Jésus-Christ en nous doit être l'identité avec laquelle le Seigneur lui-même s'est révélé aux humains, et non pas le Jésus que nous nous formatons à notre image, en fonction de nos désirs, en fonction de notre humeur du jour, nous manifestons Jésus de telle manière et un autre jour d'une autre manière. Il n'y a qu'un seul Jésus, et par conséquent, pour le présenter au monde, eh bien, nous devons nous-mêmes être ce Jésus, par notre attitude, par notre manière de vivre. Lorsque je dis que aujourd'hui c'est ce point-là qui est le moins pratiqué, c'est tout simplement parce que le chrétien est sous quelquefois l'emprise ou bien sous l'influence, sous la pression que le monde fait en permettant et en offrant tant de désirs, tant de plaisirs, tant de divertissements qui font que quelquefois le chrétien n'est que chrétien lorsqu'il se retrouve dans la vie de l'église et il ne l'est plus lorsqu'il sort justement du contexte du culte, du contexte de la communion fraternelle. Il devient un chrétien selon lui-même. Et c'est ce qui fait du tort, tout simplement, à l'Église. Parce que beaucoup de païens disent, « Mais si être chrétien, c'est ça, je préfère rester tel que je suis. » Il y a des gens qui ne veulent pas être chrétiens parce que, lorsqu'ils voient celui qui se dit chrétien, ben, ils ne voient pas clairement une différence entre lui et le chrétien. Parce que le chrétien se met en colère autant comme les païens. Il peut aussi injurer comme un païen va injurer. Il peut aussi, manifester un mauvais caractère comme dans le monde on le fait aussi. Il peut aussi pécher sans demander pardon comme dans le monde on le fait aussi. Et ça emmène une confusion qui emmène les gens finalement à ne plus savoir est-ce que la vérité existe vraiment? Est-ce que Christ existe vraiment? Il y a des personnes qui pensent que la Bible, l'Évangile, Jésus-Christ, c'est une histoire d'enfant. C'est une histoire qui a été inventée. C'est une histoire qui a été créée. Il y a des gens qui disent que non, l'évangile n'est que le moyen que, entre guillemets, les blancs ont créé pour pouvoir nous coloniser les noirs et les rendre bêtes. Il y a des théories comme ça. Donc chacun interprète à sa sauce parce que le Jésus qui a été manifesté et que nous lisons dans la Bible, mais c'est un Jésus quelque part que nous ne voyons pas. Or, le Seigneur nous appelle à être les imitateurs de Christ, à être nous-mêmes à l'image du Seigneur. Dans Romains 8, à partir du verset 28, il est dit ceci. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur permet concourt pour notre bien. À travers les difficultés, tout ce que nous pouvons rencontrer dans la vie, le Seigneur dit qu'il le permet pour notre bien. C'est-à-dire que derrière tout ce qu'il permet, il y a un objectif. Mais quel est cet objectif? Le verset qui suit, 29, nous dit « Parce que nous avons été prédestinés à être semblable au Fils de Dieu. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur permet des événements dans notre vie, c'est pour nous amener à être semblable à son Fils, pour nous amener à être comme Jésus-Christ. C'est ça l'objectif du Seigneur, c'est de faire de nous d'autres Jésus. Que lorsque le Seigneur nous voit vivre, qu'il ait le sentiment de voir son Fils vivre, de voir la gloire de Dieu être manifestée telle que Dieu s'est glorifié dans la vie de son propre Fils. Nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 1er. Jean chapitre 1er. L'évangile d'aujourd'hui se vit beaucoup par les œuvres. Et quelquefois, on a considéré que ceux qui étaient au four et au moulin dans l'œuvre de Dieu, que c'était eux les véritables chrétiens. Ceux qui semblaient être engagés, poser des actes concrets, on avait le sentiment que être chrétien, c'est ça. Il est vrai que lorsqu'on donne notre vie au Seigneur et que le Saint-Esprit vient vivre en nous, ça nous emmène normalement à être une autre personne qui va obligatoirement produire des œuvres nouvelles. Mais il y a ceux qui font des œuvres dans le but de gagner une âme. C'est-à-dire qu'il va voir un mendiant, il va donner quelque chose dans le but de gagner cette personne-là. Mais c'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Parce que là, il n'y a plus de différence entre ceux qui pratiquent les œuvres. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Lorsqu'on veut gagner des personnes à notre cause, eh bien, on crée des œuvres pour mettre les gens en confiance en ce qui nous concerne ou en ce qui concerne une organisation. Donc, c'est quelque part comme un appât pour attirer, comme on peut attraper un poisson. Eh bien, on crée des œuvres quelque part pour orienter les personnes vers nous. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes qui fonctionnent de cette manière-là. Ils créent des organismes, soi-disant, pour aider les gens. Ils distribuent de la nourriture, soi-disant, pour aider les gens. Mais c'est dans le but, en fait, de les gagner à leur cause. Et le chrétien, malheureusement, quelquefois, a adopté ce même système. De faire les choses, non pas parce qu'il est une nouvelle créature, mais de faire les choses pour gagner. Donc ce n'est plus Jésus-Christ qui est mis en avant, mais les gens viennent uniquement pour l'œuvre, pour, quelque part comme monnaie d'échange. Et c'est pourquoi quelquefois nous voyons que les gens ne sont pas réellement convertis. Il a été attiré parce que tu as été gentil avec lui. Il a été attiré parce qu'il a été bien accueilli à l'église. Mais il n'a pas été vraiment attiré parce qu'il a vu chez toi Jésus. Il a simplement été attiré parce qu'à un moment donné, tu as combler un besoin qu'il avait. À un moment donné, tu as satisfait le besoin qu'il avait. À un moment donné, tu as donné ce qui lui manquait. Et c'est ça qui a fait qu'il vienne. Et la suite nous montre que des personnes ne sont pas attachées au Seigneur parce qu'ils n'ont jamais été attirés par Jésus. Ils ont été attirés par l'acte que tu as posé. Et ça, ça ne crée pas de véritable conversion. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, unique, venu du Père. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Autrement dit, cette parole est Dieu lui-même. Et cette parole, c'est la parole qui éclaire le monde. C'est cette parole même qui est la lumière dont on parle ici. Et on nous dit que cette lumière est descendue. Elle est venue parmi les hommes. Et la fin du verset que nous venons de lire en dernier nous dit que nous l'avons contemplée. Nous l'avons vue. On contemple avec nos yeux. On voit avec nos yeux. Donc Jean est en train de dire que ce qui était au commencement, qui pouvait être abstrait, la connaissance qu'on avait de ce Dieu-là, était une connaissance qui n'était pas représentée, était une présence qui était tout simplement invisible. Maintenant, venant sous l'apparence du Fils unique, nous avons pu contempler cette gloire de Dieu. Autrement dit, ce Dieu qui était invisible pour le peuple d'Israël, qui était invisible pour tous ceux qui avaient l'espérance de voir un jour le salut d'Israël, est devenu visible. Nous l'avons désormais vu en chair. Jésus-Christ est venu manifester qui était Dieu par sa présence. C'est pourquoi il dit à ses disciples, « Si vous me connaissez, alors vous connaissez le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père que vous ne connaissez pas, celui dont vous avez entendu parler, le Père dont a parlé vos pères, les anciens depuis l'Ancien Testament, voilà maintenant que contemplant moi, vous voyez désormais la gloire de Dieu. » Jésus-Christ est venu montrer physiquement, visiblement, ce Dieu-là qui était méconnu, dont le peuple ne connaissait pas vraiment, par sa personne, par son identité, il a tout simplement montré l'identité de Dieu le Père. Ainsi nous aussi, il y a des gens qui entendent parler de Jésus, qui ont le sentiment que Jésus-Christ est celui que l'on voit encore sur la croix. Il y a d'autres qui ont le sentiment que Jésus-Christ est encore le bébé qu'on met à la crèche. Ça fait 2000 ans qu'il est toujours bébé, toujours sous la crèche. Ça fait 2000 ans qu'il est toujours sous la croix. Et les gens ont le sentiment que c'est une histoire. Ils ont le sentiment que c'est une histoire, comme on dit, à dormir debout, c'est un conte de fées. Qui est là tout simplement, en quelque sorte, pour ajouter quelques épices dans la vie, créer une fête pour qu'il y ait un temps où les gens vivent comme un semblant de paix le jour de Noël et ainsi de suite. Et ils n'ont pas le sentiment que ce Jésus-Christ existe. Lorsque l'on lit l'évangile et que l'on dit que si on te frappe une joue, tu tends l'autre, c'est quelque chose qui fait rire les gens en se disant c'est une morale tout simplement pour amener les gens à s'aimer. Ils n'ont pas le sentiment que ça peut être vécu. Les gens ont besoin de voir ce qui est invisible, ce qui est abstrait pour eux, ce qui représente qu'une idée, une vaste idée, un conte de fées, ont besoin de voir cela être manifesté dans la chair. De la même manière que le Seigneur Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ, il faut que Jésus-Christ se fasse aussi chair en nous, afin que ce que les gens ont entendu parler, ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils ne connaissent pas, ils puissent le contempler à partir de notre témoignage. Qu'ils puissent le contempler dans la façon dont nous allons vivre. Nous pouvons présenter le Seigneur Jésus. De la même manière que Jésus-Christ a présenté son Père, a présenté Dieu, alors qu'au commencement était la parole, il est venu sur la terre et la Bible dit que nous l'avons désormais contemplé. Ce Dieu-là, nous avons vu le Dieu vivant être manifesté en chair. Et le monde a besoin aussi de voir cette révélation et de comprendre que Jésus-Christ n'est pas une fable, parce qu'ils ont rencontré des gens qui sont comme Jésus. Lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, et on nous dit qu'à Antioche, pour la première fois, on a appelé les disciples chrétiens, parce que leur manière de vivre donnait l'impression de voir Jésus-Christ. C'est comme ça qu'ils ont été appelés chrétiens, parce qu'ils avaient adopté un mode de vie, mais qui était semblable au mode de vie de leur propre maître. Mais lorsque nous sommes partagés, lorsque nous sommes dans les œuvres, eh bien c'est normal, bien-aimé, qu'il y a une confusion où on ne sait pas trop si tu es catholique. Peut-être tu travailles au Secours catholique. On ne sait pas trop si tu es témoin de Jéhovah. On ne sait pas trop si tu es mormon. Parce qu'il y a une confusion. L'identité de Jésus-Christ n'est pas manifestée de façon claire, de façon à faire la différence entre ceux qui sont à Dieu et ceux qui ne le sont pas. Pourtant, comme nous l'avons cité dans Romains 8, 29, il est écrit que nous avons été prédestinés à être semblables au Fils de Dieu. Lorsque nous lisons toujours l'évangile de Jean, au chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 18 nous dit ceci. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà la prière du Seigneur Jésus. De la façon dont lui, il est un avec le Père. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Il dit à ses disciples, celui qui m'a vu, a vu le Père, parce que nous sommes un. Et la prière du Seigneur, c'est que nous aussi, nous soyons un en lui. Que nous soyons en lui et que lui demeure aussi en nous. Afin que nous soyons un. Et de cette manière-là, Jésus-Christ sera révélé, tel que Dieu a été révélé par Jésus-Christ lui-même. C'est ça la volonté du Seigneur. C'est dans tout ce qu'il permet, dans tout ce qu'il va faire, il y a un objectif, c'est de se révéler aux êtres humains. Comment se révéler aux êtres humains? Le Seigneur a choisi de faire de nous des instruments, de faire de nous des disciples, afin que par la vie qu'il nous demande de vivre, Jésus-Christ puisse devenir visible, que l'on puisse discerner l'identité de Christ par notre manière de faire les choses, par notre manière de vivre. Et le Seigneur a mis en place toutes sortes de moyens pour nous emmener à comprendre que l'objectif que le Seigneur a pour nous, eh bien, c'est que nous soyons comme son Fils, comme le premier-né de toute la création, Jésus-Christ. Bien-aimés, il n'y a que ceux qui ressemblent à Jésus-Christ, mais qui vont hériter des promesses du Seigneur. Quand le Seigneur dit à ses disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père », lorsqu'on lit les versets qui suivent, il dit, « Vous ferez les mêmes œuvres que moi ». Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes comme moi, eh bien, automatiquement, les œuvres que moi j'ai faites, eh bien, vous les ferez aussi. Donc, ça coule de source. Si nous devenons comme Jésus, eh bien, forcément, les œuvres que Jésus-Christ a faites seront aussi démontrées. Parce que l'Esprit qui habite en Jésus, mais c'est ce même Esprit que le Seigneur nous a donné. Dans Éphésiens 1:13, il est écrit que parce que nous avons cru à l'Évangile, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la personne de Dieu en nous. Donc forcément que si nous acceptons de mourir dans nos membres, de mourir dans notre chair, automatiquement, c'est la vie de l'Esprit qui va se manifester. Et la vie de l'Esprit ne peut pas faire autre chose que ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait. Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est tout simplement l'identité de Dieu, l'identité de Jésus-Christ en nous. Et il ne pourra faire que ce que le Maître lui-même a fait. Il ne pourra faire que ce qui vient du Seigneur. C'est de cette manière-là que le Saint-Esprit peut être manifesté si nous acceptons de mourir par rapport à la logique du monde, par rapport à notre propre logique. Tant que nous sommes vivants, tant que notre orgueil prend le dessus, tant que nos convictions personnelles prennent le dessus, Jésus-Christ ne peut pas être manifesté en nous. C'est la raison pour laquelle le monde ne fait pas la différence entre qui est chrétien et qui ne l'est pas. Et souvent, lorsque on s'explique, on va nous faire comprendre que finalement, tout est pareil. Même des fois, tu vas parler avec un catholique, il va te dire, oui, mais c'est la même chose. Tu peux même parler avec un musulman, il te dira, oui, mais on a le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu. On ne peut pas être catholique et être chrétien. Soit tu es catholique, soit tu es chrétien. Soit tu es témoin de Jéhovah, soit tu es chrétien. Soit tu es musulman et ton Dieu c'est Allah, mais tu ne peux pas être musulman et dire que tu as le même Dieu que les chrétiens. Ça ne marche pas. Puisque le Dieu des chrétiens, eh bien, il s'est identifié en Jésus-Christ. Or, tous les autres mouvements qui existent refusent de reconnaître Jésus-Christ tel qu'il a été manifesté dans son identité, dans toute sa gloire. On le diminue et on fait de lui un simple homme. Jésus-Christ est Dieu. Et les choses sont ainsi, il s'est manifesté de cette manière-là. Alors par conséquent, nous devons accepter de mourir dans la chair afin que ce vrai Jésus-là soit manifesté. Éphésiens chapitre 4. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Esprit, et par conséquent, il y a aussi un seul Jésus. Éphésiens chapitre 4, la Bible nous dit ceci à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. Amen. Le Seigneur dans l'Église, qui est le corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble de tous les chrétiens du monde entier, l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés, ce sont eux qui représentent le corps du Christ. La Bible nous dit que dans ce corps-là, le Seigneur a établi différents ministères, différents services qui vont être pratiqués ou bien, vécus par des humains. Ce sont des humains à qui il donne des responsabilités d'être pasteur, d'être docteur, d'être évangéliste. Voilà, pour un objectif. Quel est cet objectif-là? Il dit pour le perfectionnement des saints. Donc le Seigneur va choisir des hommes à qui il va donner des dons, donner certaines capacités pour qu'ils puissent contribuer au travail que le Seigneur fait dans un homme à connaître le Seigneur, à ressembler au Seigneur, à son perfectionnement. Et comme la Bible nous dit, pour nous amener à l'état d'homme fait. Qu'est-ce qu'un homme fait? Quand on dit que quelque chose est fait, c'est quelque chose qui est abouti, quelque chose qui a atteint l'objectif pour lequel on l'a créé. Lorsque le potier fabrique son vase, il va amener le vase à être fait, c'est-à-dire à lui donner une forme définitive qui correspond à ses attentes et qui peut être exposée pour la décoration ou bien qui peut être vendue parce que l'objectif qu'il voulait atteindre a été atteint. Donc on dit que ces ministères-là ont été établis pour faire de nous des hommes faits. Et qu'est-ce que l'homme fait? Ce sont ceux qui arrivent à la stature parfaite de Jésus-Christ, c'est-à-dire qui arrivent à, on les a travaillés, on les a façonnés pour qu'ils deviennent que la ressemblance soit tout simplement celle de Jésus. C'est l'objectif pour lequel le Seigneur a suscité tous ses ministères. Et il dit afin que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine. Donc nous voyons par la stabilité, nous voyons par la spiritualité d'un homme les conséquences de sa vie, c'est-à-dire ce qu'il va produire, c'est ça qui va définir sa ressemblance à Jésus-Christ. Plus dans sa manière de vivre, dans sa manière de pratiquer la parole, les choses sont abouties, plus nous allons discerner l'identité de Jésus-Christ. Voilà l'objectif pour lequel le Seigneur a établi des ministères dans l'Église. Ce qui veut dire que le temps que nous passons ici ce matin, au moment où nous sommes en train d'être enseignés, la volonté de Dieu, c'est qu'à travers ces enseignements que nous recevons, nous ressemblions à Jésus-Christ davantage, de plus en plus, jour après jour, que la forme de Jésus commence à être discernée en nous. Bien-aimés, le Seigneur ne nous enseigne pas. Il ne fait pas toutes choses pour faire de nous des brebis grasses, pour remplir uniquement notre tête de connaissances, et puis demain on fait ce que l'on veut. La Bible nous dit qu'il y a un objectif, c'est de nous perfectionner et de nous amener à la ressemblance de Jésus. Mais c'est à nous de saisir ces moments-là et de prendre ce que le Seigneur nous donne pour le pratiquer. C'est en pratiquant que la transformation est en train de s'opérer. Lorsque nous éduquons nos enfants et que nous leur inculquons ce que nous pensons être juste, lorsque nos enfants vivent, il y a des gens qui peuvent être proches de nous, des gens qui peuvent nous connaître, et rien que dans la façon dont l'enfant vit, on discerne que c'est le fils d'un tel. Parce que l'éducation a laissé une trace en lui qui l'emmène à vivre et à faire les choses selon que la personne le lui a donné. Donc, il ne peut pas faire autrement, parce que c'est quelque chose qui désormais fait partie de sa vie. C'est quelque chose qui a été semé, qui a conditionné sa vie et qui l'a amené à adopter un mode de vie dans lequel on peut reconnaître que tiens, ça c'est telle famille qui se comporte comme ça. Et de cette même manière que lorsque nous recevons les paroles du Seigneur, c'est une éducation que le Seigneur est en train de faire dans notre vie, de façon à ce que cette parole travaille en nous, nous forme et qu'elle démontre clairement l'identité de Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé avec les disciples à Antioche. Ils ont adopté un mode de vie qui les a façonnés à tel point que lorsque les gens les ont vus vivre, ils ont eu le sentiment de voir Jésus. Voilà les chrétiens, ceux qui pratiquent la parole de Dieu, qui se laissent transformer par les Écritures de façon à ce que Jésus-Christ soit visible et soit présenté aux humains. Quand le Seigneur s'adresse aux femmes dans l'épître de Pierre, il dit aux femmes qui ont des maris qui n'obéissent pas à la parole. Ce n'est pas dans les disputes, ce n'est pas dans dans des longs débats que vous allez pouvoir changer l'homme. L'apôtre dit non, il dit gagnez-les par votre témoignage, gagnez-les vous en appliquant la parole de Dieu. Donc gagnez-les en étant tout simplement comme Jésus, en pratiquant la parole. Et même si c'est vrai que l'apôtre Pierre s'adressait aux femmes, mais c'est valable aussi pour les hommes. C'est pas par la parole, c'est pas par la violence qu'on peut emmener quelqu'un au Seigneur. C'est pas par la persuasion, par le nombre de paroles qu'on va donner, qu'on va convaincre une personne. L'apôtre dit non, gagnez-les par votre manière de vivre. Que dans ta façon de vivre, on discerne qui est Jésus. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Que par notre manière de vivre, on discerne clairement qui est Jésus. Et comme je le disais en introduction, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Quelquefois, on pratique, mais on se dit, mais ça fait longtemps. On se souvient dans le psaume 73, Asaph dit, pourquoi les méchants prospèrent? Et il dit, j'ai voulu faire comme eux. Mais il s'est souvenu que non, ça c'est pas de ma race. Il dit, je ne suis pas comme ça. Il a voulu les copier parce qu'à un moment donné, il s'est fatigué. Il dit, c'est donc en vain qu'on applique tous ces commandements. Et c'est ce qui nous arrive quelquefois. De se dire, mais ça fait longtemps que je pratique, il ne se convertit toujours pas. Alors, on tombe à vouloir faire les choses de façon charnelle. À vouloir faire les choses comme des êtres humains normaux. Parce qu'on se dit que ça n'a pas fonctionné. On ne veut pas éprouver le Seigneur dans le temps en pratiquant. On se fatigue et on abandonne ce qui est droit, ce qui est juste. Et l'identité de Jésus n'est plus manifestée. Et c'est ce que le monde aime. C'est ce que le monde attend. Que nous soyons justement irrités pour dire voilà les chrétiens. Voilà. Mais en donnant cette image-là du chrétien, c'est cette image aussi qu'ils ont de Jésus-Christ. Lorsque un enfant se comporte mal, lorsque un enfant est impoli, ne respecte pas les aînés, qui ne respecte pas les professeurs à l'école, ces adultes-là qui sont témoins de ces agissements, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais que ses parents ne font pas ce qu'il faut. Donc, la façon dont l'enfant vit apporte automatiquement un jugement sur les parents. Donc, lorsque nous vivons la vie, comme nous décidons de la vivre, sans que Jésus-Christ soit vivant en nous, c'est tout simplement le nom de Jésus-Christ qui est blasphémé, qui est moqué. Parce que nous prétendons l'avoir comme maître, alors l'attitude que nous démontrons montre aussi quelque part ce qu'est notre maître. Et ça donne une fausse idée. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul en parle dans Romains chapitre 2 et qu'il dit que c'est à cause de vos attitudes que le nom du Seigneur est blasphémé. C'est à cause de votre manière de vivre que notre Dieu n'est pas craint. Parce que ce que nous manifestons donne l'impression aux gens que voilà l'identité de leur Dieu. Et nous faisons de l'ombre à l'Évangile. Nous faisons de l'ombre au Seigneur. Et de cette manière-là, il y a des païens qui ont le sentiment d'être plus bons que des chrétiens, qui ont le sentiment d'être meilleurs que les chrétiens. Alors, s'ils ont le sentiment d'être meilleurs que nous, pour quelles raisons viendront-ils au Seigneur? Quel est leur intérêt de venir au Seigneur si la vie que nous démontrons eh bien, est totalement contraire à l'évangile. Mais il n'y a point d'intérêt. Il n'y a point d'intérêt. Or, lorsque nous présentons le Seigneur, c'est la part que le Seigneur attend de nous. Et c'est de cette manière-là que le Seigneur lui-même agira. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 16 que le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra le monde. Le Saint-Esprit convaincra le monde. Le Seigneur lui-même agira pour convaincre et attirer les gens à lui. Nous, nous avons tout simplement qu'à présenter le Seigneur. Voici Jésus. Lorsque les premiers disciples ont vu Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, un des disciples est parti chercher un autre. Il lui a dit, viens et vois. Viens et vois. Tu peux douter, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Viens et vois. Les gens doutent. Présentons tout simplement le Seigneur et acceptons que le Seigneur lui-même fera sa part. Lui-même convaincra. N'entrons pas, bien-aimés, dans la logique des œuvres, de faire les choses en se disant que c'est en faisant comme ça, en étant gentil, en étant bon, que je vais attirer la personne. Loin de là, nous sommes bons, nous sommes gentils, parce que c'est devenu notre vie, parce que c'est notre nature, et que nous ne pouvons pas vivre de façon différente qu'à produire les mêmes œuvres que le Seigneur a produites, parce que sa vie désormais vit en nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans l'effort, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon stratégique, où je calcule, tiens, en faisant ça, je vais pouvoir le gagner et l'attirer. Là, tu vas attirer une personne qui viendra pour les œuvres que tu as faites, mais il ne viendra pas parce qu'il a été touché par Jésus. Et une personne qui n'est pas touchée par Jésus, c'est une personne qui n'est tout simplement pas convertie. Et c'est la raison pour laquelle même dans l'église du Seigneur, dans les églises locales, il y a beaucoup qui ne sont pas convertis. Ils ont été touchés par l'éloquence du pasteur. Ils ont été touchés par la gentillesse de la sœur ou du frère qui lui rendait des services. Et quelque part, ils viennent pour te faire plaisir à toi qui l'a amené ou bien qui l'a aidé. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont été touchés et convaincus par Jésus. Parce qu'ils n'ont jamais vu en réalité Jésus-Christ chez toi. Le bien que tu as fait, eh bien, c'est un bien qui va les amener à quitter un jour. Pourquoi? Parce que tu lui as fait le bien aujourd'hui. Mais demain, quelqu'un d'autre lui fera plus de bien que toi. Alors il partira. Parce que là-bas, il sera plus à l'aise. À cause du bien qui est beaucoup plus important que le bien que toi tu fais. Mais la personne qui vient, parce qu'elle a connu Jésus, elle a, comme Jérémie, été séduite par Jésus, qui s'est laissé séduire par le Seigneur, c'est cette personne-là qui s'attachera. Que tu lui fasses du bien ou pas, que tu sois là ou pas, une fois qu'elle a été saisie par le Seigneur, ça devient désormais son histoire personnelle avec Jésus. Et ça, nous pouvons le faire non pas par les œuvres, mais en étant nous-mêmes Jésus-Christ, en laissant la vue de Jésus être manifestée en nous, afin que la gloire de Dieu, que la personne et l'identité de Jésus soient tout simplement révélées en nous. Dans Matthieu chapitre 5, il est dit ceci. Le Seigneur, comme nous l'avons cité, a établi des ministères pour nous amener et nous façonner à être à la stature parfaite du Seigneur. Et le Seigneur a aussi donné sa parole et il a donné toutes sortes de recommandations. Nous en lisons quelques-unes. Matthieu 5, à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il est écrit dans un autre passage que celui qui accomplit justement la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui accomplit cette loi, eh bien finalement, il a accompli tout ce que le Seigneur attendait de lui. Donc toute la loi et toutes les recommandations du Seigneur se traduisent par un verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, le Seigneur donne des exemples clairs. Il dit, mais si tu salues seulement ceux que tu aimes, Tu salues seulement tes amis, tu salues seulement les personnes avec lesquelles tu t'entends. Mais est-ce que tu mérites une récompense pour ça? Loin de là. Puisque les païens le font aussi. Donc ça veut dire que par ce mode de vie, eh bien, tu ne fais pas la différence entre le païen et celui qui est enfant de Dieu. Mais la différence se fait dans ce que la chair et le monde n'acceptent pas. C'est-à-dire le pardon, la miséricorde, d'accepter de faire du bien à celui qui t'a fait du mal. Ça, ton corps ne l'acceptera jamais. Ton intelligence humaine ne l'acceptera pas. Le monde ne l'acceptera pas. Mais celui qui a reçu la vie du Seigneur l'acceptera. C'est la raison pour laquelle, pendant qu'on crucifie le Seigneur, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà le témoignage du Seigneur, de pardonner, de prier pour ceux qui sont en train de le crucifier, pour ceux qui l'ont renié, pour ceux qui l'ont malmené, qui l'ont battu. Il dit, Père, pardonne-leur. Là, il y a une différence entre celui qui vient véritablement de Dieu et celui qui ne vient pas du Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur développe et finit par dire, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La perfection que le monde ne connaissait pas. Parce que, chose impossible, pour atteindre cette perfection, autrefois, il fallait accomplir toute la loi sans pécher contre une seule pour être reconnu comme parfait. Et l'apôtre Paul nous dit, c'était tout simplement impossible à la chair. Et cette perfection, Jésus-Christ est venu la démontrer. En vivant sur la terre et en ne péchant point, il a démontré qu'il était au-dessus de tous les humains. Il a démontré qu'il était au-dessus de tous les prophètes, de tous ceux qui étaient venus avant lui. Il a démontré que lui seul avait les clés de la vie éternelle. Lui seul avait les clés du séjour des morts. Que lui seul était véritablement Dieu. Et c'est cette perfection-là que le Seigneur nous appelle à atteindre. Or, cette perfection, nous l'identifions uniquement dans la personne de Jésus. Donc, celui qui tend à cette perfection, c'est celui qui tend à ressembler à Jésus, à être lui-même Jésus. Et à travers toutes ces recommandations que le Seigneur a données dans les évangiles, il nous invite à les pratiquer parce que lui-même les a pratiquées. Et ce qui était difficile et impossible aux humains autrefois, comme nous l'avons dit, il nous a donné le Saint-Esprit. Il est venu vivre en nous, afin que lui en nous, nous rende capables de travailler et d'atteindre cette perfection qui va révéler finalement que le Seigneur lui-même. Parce que c'est lui seul qui est bon, c'est lui seul qui est parfait. On ne peut pas ressembler à Jésus si nous n'acceptons pas de vivre la parole de Dieu et de laisser la parole de Dieu nous transformer, nous façonner à l'image de Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur a donné toutes ces recommandations-là. Et celui qui fait confiance à la parole de Dieu, celui qui s'y applique, c'est en celui-là que nous allons discerner véritablement l'identité du Seigneur. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'esprit est tout ce qui est détaillé ici, reflète tout simplement la nature de Dieu. Donc lorsqu'on dit le fruit de l'esprit, en réalité nous parlons de la nature de Dieu. Dans les versets d'avant, l'apôtre Paul parle des œuvres de la chair. Il dit que les œuvres de la chair sont évidentes. Il veut dire par là que celui qui vit de façon charnelle, automatiquement va développer tout ce qui est cité au verset 19, c'est-à-dire la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et tout ce qui est semblable. Donc celui qui vit de façon charnelle va naturellement produire ces œuvres-là. Donc, c'est quelque chose qui est logique. Voilà, c'est quelque chose qui est logique lorsque nous vivons de façon charnelle, avec notre propre intelligence, avec notre propre conviction, on ne peut rien produire d'autre que ce qui est dit là dans le verset 19 et dans le verset 20. Et dans cette même logique, l'apôtre dit, mais si nous avons désormais l'Esprit de Dieu en nous, c'est-à-dire la nature de Dieu, cette nature va se démontrer naturellement. On ne va pas produire la bonté, la joie, parce qu'on veut attirer quelqu'un. Ça se produit naturellement parce que ça fait partie de nous. C'est logique. Un enfant qui est né en France et qui n'a entendu que le français, même s'il va dans un autre pays, ce qui sortira de sa bouche, c'est le français. Puisque ça fait partie de lui, il ne va rien inventer. Il va parler français parce que ça fait partie de lui. C'est normal, celui qui est né en Chine, qui arrive ici pour la première fois, mais on ne va pas attendre de lui qu'il parle français comme toi et moi. Il est chinois. Donc, au-dedans de lui, la seule langue qui pourra sortir de sa bouche, c'est le chinois. Et aussi évident que ça l'est, la Bible nous dit que ça doit aussi être une évidence que celui qui dit être né de nouveau, qui a reçu la parole du Seigneur, qui a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu en lui, naturellement doit produire la nature de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Ça doit être aussi logique que lorsque j'ouvre le robinet du côté bleu, c'est l'eau froide qui sort. Il n'y a rien de sorcier comme on dit. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est quelque chose qui est logique. Lequel d'entre nous, lorsqu'il ouvre le robinet, qui saute, l'eau est sortie. Personne n'est étonné. C'est normal que d'un robinet sorte de l'eau. Mais ça doit être aussi normal que dans un chrétien, on voit Jésus. Puisque c'est ce Jésus-là qui est en lui. Donc c'est normal que dans sa façon de vivre, la nature de Dieu est manifestée. Et lorsqu'il fait le bien, il ne le fait pas parce qu'il veut convaincre. Il ne le fait pas parce qu'il y a une stratégie derrière. Il le fait parce que ça sort de lui. Il ne peut pas faire autrement que de vivre ce qu'il est devenu, ce que le Seigneur a fait de lui. C'est ça le chrétien. Et c'est comme ça que nous allons être nous-mêmes des Jésus. Parce que la vie de Dieu en nous se manifeste réellement. Parce que nous avons accepté de faire mourir la chair. Nous avons accepté de renoncer à la vie terrestre pour que la vie céleste, la vie de Dieu, la vie de Jésus soit témoignée par nous. Nous sommes des instruments. C'est pourquoi il est écrit que soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. L'apôtre Paul dit que par ma mort, oui, je peux glorifier le Seigneur. Mais que si je vis, c'est aussi pour glorifier le Seigneur. Donc l'un comme l'autre, ma vie est consacrée à Dieu. C'est pourquoi il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et avec cette assurance, l'apôtre Paul dit, soyez donc mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. L'apôtre Paul, en disant ça, voulait tout simplement dire, il avait cette assurance-là, que sa façon de vivre présentait tout simplement Jésus. Et il n'a pas eu peur de dire, imitez-moi, parce que en me voyant vivre, c'est tout simplement Jésus que vous êtes en train de voir vivre. Comme Jésus-Christ lui-même avec assurance a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Ma vie témoigne et révèle qui est Dieu. Et nous sommes appelés, nous aussi, par notre vie, à témoigner du Seigneur, à présenter Jésus-Christ par notre manière de vivre. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Le verset 17 nous dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà ce que le Seigneur dit à ses disciples après les avoir envoyés en leur disant « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Et il dit « Voici les miracles qui accompagneront. » Donc, lorsqu'on dit que quelque chose accompagne, c'est quelque chose qui est logique. C'est un processus qui est établi de cette manière-là. Voilà. Donc, quand on arrive à la fin du printemps, nous savons que l'été est proche. Ce n'est pas quelque chose qu'on change, c'est quelque chose qui est logique. C'est un cycle qui est imposé par la vie. Et aussi dans la logique du Seigneur. Dans la vie, selon le Seigneur, celui qui croit en lui, il y a aussi une logique. C'est que voilà les choses qui vont accompagner les miracles, tous ceux qui auront cru. Qui auront cru en quoi? Bien sûr, qui auront cru à l'évangile. C'est-à-dire tous ceux qui croient en l'évangile, ce sont ceux qui ont une vie spirituelle. Vivre une vie spirituelle, c'est tout simplement pratiquer les Écritures. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui pensent qu'être spirituel, c'est quelque chose d'extraordinaire, comme si ça demande, je ne sais pas, de la concentration, ça demande des heures, je ne sais pas, de méditation. Être spirituel, c'est vivre par rapport à la parole. Puisque celui qui vit la parole, qui pratique la parole de Dieu, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas te conduire à faire autre chose que ce qui est écrit. Il y a des gens qui disent « Dieu m'a dit, j'ai reçu de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu a dit. » Il n'y a pas de problème, Dieu parle. Mais vous voyez voir que ce qu'ils vont faire, ce qu'ils pratiquent, ce sont des choses qui ne correspondent pas aux Écritures. Mais quand on dit « Mais tu es en train de vivre quelque chose, mais on ne voit pas son doigt. » Oui, mais moi Dieu m'a dit. » Mais Dieu ne peut pas te dire quelque chose que la Bible n'a pas soulevé. Dieu ne peut pas créer un autre verset sous prétexte qu'il t'a parlé. Donc, croire au Seigneur, c'est croire à la Bible telle qu'elle est. Et lorsqu'on croit à la Bible telle que nous l'avons reçue et que nous la pratiquons, c'est ainsi que nous sommes dans le spirituel. Or, la parole de Dieu, qui est aussi spirituelle, nous emmène à vivre dans une logique spirituelle. C'est la raison pour laquelle celui qui est spirituel n'est plus influencé par tout ce qu'il voit dans le monde. Celui qui est spirituel a mis la pensée de l'éternité en priorité. Son souci est lié tout simplement aux réalités célestes, aux réalités du ciel. Parce que désormais, il est spirituel. Pour lui, la vie éternelle a beaucoup plus de valeur que toutes les choses qu'il peut trouver sur la terre. Ainsi, lorsque l'on vit selon la parole de Dieu, qu'on devient des hommes spirituels, on accepte de vivre dans le contentement. La logique de la convoitise n'est plus. Parce qu'il est conscient que, pourquoi convoiter comme si cette chose allait me donner plus de bonheur? Il est déjà dans le bonheur parce qu'il a Jésus-Christ en lui. Donc les choses de la terre ne l'influencent plus. Il ne peut plus être jaloux. Parce que pour lui, les choses de la terre n'ont aucune valeur devant les choses du ciel. Devant les choses que Dieu lui a promises. Il est attaché à ça. Et sa logique et sa conception de la vie est influencée entièrement par rapport à ce qui est écrit. C'est ça, les personnes qui croient. Ce sont des gens spirituels qui ont placé les choses de Dieu au-dessus de toutes choses. Il n'est plus dans la crainte en ce qui concerne la terre, en ce qui concerne le monde. Ça n'a plus d'impact sur sa vie. Même si il est surpris un temps, mais rapidement il se ressaisit parce qu'il se souvient que il n'est que passager sur la terre. Il se souvient que, comme le Seigneur a dit, mon royaume n'est pas d'ici. Ma patrie n'est pas d'ici. Je ne suis que de passage. Je suis un étranger. Et un étranger ne cherche pas à s'identifier par rapport à une nouvelle terre. Il s'identifie en fonction de ce qu'il est. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus, en tant qu'imitateurs de Jésus, nous devons nous identifier au ciel, être des êtres spirituels. Et lorsque nous sommes des êtres spirituels, quelle est la conséquence? Voici les miracles maintenant qui accompagnent. Là, nous entrons dans le domaine de ce qui est surnaturel. Et c'est comme ça que les gens peuvent nous voir et nous considérer comme des extraterrestres, comme des gens qui sont fous. Combien d'entre nous, quand on s'est converti, les gens ont dit, mais il est devenu fou. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Les gens nous regardent comme des gens qui ne sont plus normaux. Parce que la façon de vivre ne ressemble plus à celle que le monde vit. C'est à ce moment-là que nous commençons à ressembler à Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas identifié comme l'un des leurs. Ils ont dit, tu n'es pas l'un des nôtres. Ils ne l'ont pas identifié de cette manière-là. Parce que ce qu'il prêchait et sa façon de vivre témoignait clairement qu'il n'était pas comme les autres. Et il n'a pas été accepté. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous sommes rejetés, parce que le monde ne trouve pas son identité dans ta façon de vivre, lorsque nous sommes persécutés, parce que le monde ne trouve pas la logique dans sa logique à lui, dans ta façon de vivre, ça montre que nous ne sommes plus de cette terre-là. Ça montre que l'identité de Jésus-Christ commence à être manifestée, et là le monde commence à être dérangé, parce que tu ne leur ressembles pas. Et comme le monde dit, qui se ressemble s'assemble. Donc c'est une manière de dire que si tu ne le ressembles pas, eh bien tu ne peux pas t'assembler avec lui aussi. Gloire à Dieu, puisque nous sommes appelés à ressembler à Jésus-Christ. Nous sommes appelés à ressembler à notre maître. Et les choses surnaturelles vont suivre de façon logique. Dans lorsque nous vivons de façon spirituelle, mais oui, forcément, ça attire et ça produit le surnaturel. Ce que le monde ne peut pas saisir. Ce que le monde ne peut pas comprendre. Comme l'apôtre Paul dit, parce que les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Le monde ne saisit pas, le monde ne comprend pas. Parce que l'identité que nous manifestons aujourd'hui n'est plus l'identité des êtres humains normaux, mais tout simplement l'identité de Jésus-Christ. Et c'est de cette manière-là que le Seigneur, lui, veut se révéler aux humains. Mais pour ça, le Seigneur a besoin aussi de notre consentement. C'est un travail que nous faisons avec le Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie. Et en contrepartie, le Seigneur travaille en nous. Mais tant que notre vie n'est pas consacrée à Jésus, tant que notre vie n'est pas consacrée à Dieu, les gens ne verront pas le Seigneur. Et nous ne serons pas dans les meilleures dispositions pour présenter tout simplement Jésus. Jésus a voulu se présenter en passant par nous qui sommes ses disciples-là. C'est comme ça que le Seigneur a trouvé bon d'agir. Mais c'est à nous d'accepter, de vivre l'évangile, d'être déconsidéré par le monde, d'être perdant selon le monde, mais que l'identité de Jésus-Christ soit témoignée et manifestée de façon claire dans notre vie. Celui qui vit dans le surnaturel, c'est celui en fait qui ne se pose pas de questions sur la Bible, dans le sens où il ne met rien en doute. Pour lui, tout ce qu'il lit, c'est quelque chose qui est normal. Tout ce qu'il lit, c'est quelque chose qui est bon. Et il le reçoit avec joie. C'est en recevant la parole de cette manière-là, oui, que nous sommes aussi considérés et que nous entrons dans le domaine surnaturel. Le centenier romain, qui avait son serviteur qui était malade, prêt à mourir, la Bible nous dit. Les gens sont venus voir le Seigneur pour lui dire, fais quelque chose pour cet homme-là. Voilà, son serviteur est malade. Et cet homme a fait des choses quand même pour nous. Il a construit les synagogues pour nous. Il nous a aidés, fais quelque chose. Alors, ce centenier romain-là va dire, mais Seigneur, ne prends même pas la peine de venir jusqu'à chez moi. Moi qui suis un chef, je donne des ordres aussi aux autres. Je dis à l'un, va là-bas, et il va. Je dis à l'autre, fais ceci, et il le fait. Donc, Seigneur, de là où tu es, tu n'as même pas besoin d'arriver jusqu'à chez moi. Dis seulement un mot, même à distance. Je sais que mon serviteur sera guéri. Cet homme-là, la pensée qu'il avait de Jésus, le regard qu'il avait de Jésus, c'était tout simplement comme si Dieu, il s'adressait à Dieu directement. Parce que qui peut guérir à distance ? Qui peut commander juste par sa bouche à la maladie de quitter? Lorsque nous sommes malades sur la terre, on nous fait des piqûres. On nous donne des médicaments. Donc l'intervention est obligatoirement physique. Jamais personne d'entre nous qui a été malade a été chez le médecin. On écoute la parole du médecin et on ressort guéri du bureau, loin de là. On ressort avec l'ordonnance. On prend les médicaments pour que les médicaments agissent physiquement en nous. Ça, ce qui est rationnel et scientifique pour les humains. Mais le surnaturel est au-dessus du scientifique. Le surnaturel, c'est le domaine là où, humainement parlant, c'est impossible. Et ce centenier-là avait compris qui était Jésus. Il était dans une logique surnaturelle. Seigneur, ne te donne même pas la peine de venir jusqu'à chez moi. Ce n'est pas la peine. Dis seulement un mot. Celui qui est enfant de Dieu, qui manifeste la nature de Jésus, agit aussi selon la logique de cet homme-là. C'est écrit en son nom, en imposant les mains aux malades, on va imposer les mains, les malades seront guéris. Le chrétien se pose des questions. Ah, est-ce que même pour cette maladie, c'est possible? Cet homme-là ne s'est pas posé de questions. Il savait que Jésus-Christ était capable, un point, c'est tout. Le domaine du surnaturel, c'est ça. C'est de se dire que humainement, ce n'est pas possible. Mais moi, je ne suis pas dans l'humainement parlant. Je suis un être spirituel qui parle avec la Bible. Alors la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, en toute chose faites connaître vos besoins. Alors la façon dont le Seigneur va se manifester, la façon dont le Seigneur va se glorifier, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est écrit que ne t'inquiète pas, demande seulement. Alors je demande et je ne me pose pas de questions. C'est de cette manière-là que Jésus-Christ deviendra réel. Jésus-Christ a rendu Dieu réel aux yeux des humains, aux yeux des juifs. Et comme il le dit, les œuvres que je fais témoignent bien que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les œuvres qui découleront aussi de ce que nous allons faire témoigneront aussi que nous et Jésus, nous sommes un. Acceptons de mourir par rapport à ce monde et de laisser l'identité de Jésus-Christ être manifestée en nous afin de pouvoir le présenter aux êtres humains. Le monde souffre, comme nous l'avons dit au premier jour, et le monde a besoin de savoir qu'il y a une solution. Et c'est un privilège, ça doit être un privilège, bien-aimé, de savoir que le Seigneur nous a appelés et qu'il nous a choisis pour que la vie de Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ soit présenté à travers nos vies. Ça, c'est un privilège. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen. Éternel Dieu, nous te rendons grâce encore ce matin, Seigneur. Nous te louons, Seigneur Dieu de gloire, pour tous tes bienfaits. Seigneur, nous savons et nous le reconnaissons, Seigneur, que sans toi, Seigneur, c'est la mort. Parce que la Bible déclare aussi que la vie se trouve en toi. Seigneur, aide-nous ce matin à réaliser, Seigneur de gloire, la grâce et le privilège que tu nous accordes, Seigneur. Parce que tu es venu vivre en nous. Les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, Seigneur. Mais tu es venu vivre en nous. Aide-nous à réaliser, Seigneur Dieu de gloire, ce privilège que tu nous accordes, ô Dieu. Nous avons besoin, Seigneur Dieu de gloire, avant que tu sois réel par nous à tout le reste du monde, mais que tu sois déjà réel pour nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, à réaliser que véritablement tu vis en nous. Aide-nous, Seigneur de gloire, à réaliser que véritablement, Seigneur, tu habites en nous, Seigneur. Tu as fait de nous ton temple, Seigneur. Tu as fait de nous ta maison, Seigneur. Et bien souvent, nous l'oublions, Seigneur. Et si nous ne l'oublions pas, ben, on n'en prend pas véritablement conscience. Seigneur, ce matin, Seigneur Dieu de gloire, convainc-nous, Seigneur de gloire, que véritablement tu es en nous. Nous voulons, Seigneur de gloire, nous attacher à toi, faire de toi notre priorité, Seigneur. Que tu sois déjà vivant pour nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Regarde, Seigneur de gloire, tous ces sentiments au-dedans de nous, Seigneur, qui nous emmènent le doute, Seigneur, qui affaiblit notre foi. Les raisonnements, Seigneur Dieu de gloire, devant certains passages bibliques. L'incrédulité, ô Dieu, alors que tu as déjà agi dans nos vies à maintes reprises. Seigneur, restaure-nous. dans le nom de Jésus. Restaure-nous, Seigneur Dieu de gloire. Emmène-nous, Seigneur de gloire, à nous souvenir à chaque instant que réellement tu es avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin des temps, que réellement tu vis en nous, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Convainc-nous, Seigneur Dieu de gloire, de ta présence dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur de gloire, ce matin, nous ne voulons pas nous inquiéter. C'est pourquoi nous venons te prier, Seigneur. Car nous avons la conviction que tu écoutes, que tu nous entends. Nous avons la conviction, Seigneur de gloire, que tu veux agir encore dans nos vies ce matin. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, restaure notre foi ce matin, Seigneur Dieu. Restaure notre foi ce matin, Seigneur.